Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Ce 25 octobre, Contre-Histoire veut revenir 10 ans en arrière. Bien sûr, pour rappeler qu'il y a 10 ans, Rémi Fraisse a été assassiné. Voilà 10 ans que Rémi Fraisse, botaniste de 21 ans, a été tué par un gendarme. Reporter revient sur la lutte contre le barrage de Sivens, une page violente de l'histoire des luttes environnementales. C'était le 26 octobre 2014. À Lille-sur-Tarn, il était 1h45 du matin, quand un jeune homme de 21 ans s'effondrait, mortellement touché par une grenade offensive lancée par un gendarme. C'était Rémi Fraisse, le premier militant écologiste tué par les forces de l'ordre en France depuis l'antinucléaire Vital Michelon, abattu en 1977 par le même type d'arme. Le dessinateur de Reporter a fait plusieurs dessins assorti à cet article. Le premier qui apparaît sur le site nous représente Rémi de dos devant la foule des manifestants et faisant face à quelques mètres de distance aux gendarmes. Mais le dessin de Mébec représente Rémi avec les bras écartés comme pour contenir et pour contenir la foule des manifestants. Les bras écartés à l'oblique, les mains en bas. Mais tous les témoins et la famille rapportent que Rémi avait les mains levées, avait les mains en l'air devant la grenade, ce qui change beaucoup la donne, ce qui donne une symbolique complètement différente à cet événement. Et l'article de Reporter poursuit. Quelques heures plus tard, le chantier du barrage de Sivens, contre lequel il manifestait, était suspendu. Mais la zone humide du Testet, l'une des plus importantes du département du Tarn, était déjà entièrement détruite. Comment l'obstination pour un objet mal pensé, mené à marche forcée et voué à l'échec, a conduit à la mort d'un manifestant dans une campagne française? 10 ans après, Reporter revient sur cette page violente de l'histoire des luttes environnementales. Pourquoi un barrage? À l'origine du drame, il y a un projet dit d'utilité publique. Le barrage de Sivens, du nom de la forêt qui entourait la zone concernée dans la commune de Lille-sur-Tarn. Dans les années 2000, les pouvoirs publics voulaient construire une retenue artificielle sur le Tescou, la si jolie petite rivière qui serpente entre Gaillac et Montauban. Principalement porté par le département du Tarn, ce projet visait officiellement à augmenter le débit du cours d'eau en aval. En réalité, il concernait essentiellement la constitution de réserves en eau destinées à l'irrigation pour des productions de céréales, notamment du maïs. Près de 85 exploitants agricoles se disaient intéressés au départ. Mais une partie d'entre eux disposait déjà de leur propre solution de stockage d'eau. Le projet ne bénéficiait donc qu'à un très petit nombre d'exploitants, à peine une trentaine, comme l'a par la suite établi un rapport d'expertise. Rapport qui soulignait également combien l'option d'un barrage avait alors été choisie sans réelle analyse des solutions alternatives possibles. En 2009, le conseil départemental du Tarn votait tout de même la construction d'une retenue artificielle d'1,5 million de mètres cubes d'eau pour un coût estimé à 9 millions d'euros. Alors pourquoi les écologistes s'y sont-ils opposés ? Sur les 36 hectares d'emprise du projet se trouvait une zone humide boisée de plus de 11 hectares aux abords du Tescou. Avec 94 espèces protégées recensées, c'était l'une des dernières zones humides de cette importance existant encore dans le Tarn. Ainsi, le Conseil supérieur de protection de la nature, CNPN, avait donné par deux fois un avis défavorable du fait de manquements sur la protection des espèces, et parce qu'il jugeait que les mesures de compensation des zones naturelles détruites étaient irréalisables, inadéquates ou très hypothétiques. Au tout début de la lutte, associations locales, paysans et écologistes se sont donc opposés au barrage en utilisant des moyens légaux. Dès 2012, le collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet s'est mobilisé. Pétitions, rassemblements, chaînes humaines, pour contester l'utilité du projet. Cela n'a pas empêché la préfecture du Tarn d'autoriser le projet en 2013, aussitôt contesté devant la justice par les opposants. Dans le même temps, une autre partie d'entre eux a alors entamé l'occupation d'un vieux corps de ferme, la Métairie-Neuve, située à 3 km à l'est du projet de barrage. L'année d'après, la préfecture du département autorisait le démarrage du chantier de déboisement sans attendre l'épuisement des recours juridiques. Malgré les multiples irrégularités, autorisation de défrichement postérieure au début du chantier, destruction de vestiges archéologiques, mais oui, et l'action des opposants, la zone humide du Testet fut entièrement rasée et le sol aplani. Une fois l'abandon du projet acté en 2015, sur déclaration de la ministre de l'Écologie Ségolène Royal, des mesures furent demandées pour tenter de remettre en état la zone. Celle-ci s'étend aujourd'hui sur 27 hectares. Mais la grande majorité des espèces emblématiques qui s'y trouvaient avant les travaux n'y sont plus recensées. Comment la ZAD est devenue un symbole politique ? Reporter a été le premier média à s'intéresser à cette lutte, d'abord locale, dans la campagne occitane. Au départ, il n'y avait qu'une poignée d'occupants permanents, rassemblés au sein du collectif tant qu'il y aura des bouilles, du nom des zones humides en patois local. La lutte a pris de l'ampleur et une ZAD s'est créée, comptant quelques centaines d'opposants, au point de faire figure de Notre-Dame des Landes du Tarn. Les zadistes utilisaient des techniques non violentes pour défendre la forêt. Ils se perchaient dans les arbres, s'enterraient dans le sol et ont même entamé une grève de la faim. En face, la répression policière s'est accentuée, contribuant au changement d'échelle de la lutte. L'occupation a été perturbée dès le départ par un harcèlement policier préfigurant celui qu'ont vécu les opposants de l'A69. Les occupants ont été expulsés à plusieurs reprises et leurs campements successivement détruits. Par ailleurs, on recense de nombreuses blessures et humiliations liées aux interventions policières. Un traumatisme crânien, un tir tendu de flashball reçu sur le bras, des tirs de lacrymo à bout portant sur le torse, une jeune fille avec 4 points de suture réalisés en urgence à la jambe à la suite d'un coup de matraque, et une grenade qui a été lancée dans une caravane où était installée une jeune fille qui a été très gravement blessée à la main. S'est ajoutée à cela l'action de milices pro-barrage, pneus crevés, pare-brise défoncés, campements saccagés, affaires volées, tentatives d'intimidation. Pour le gouvernement socialiste de l'époque, déjà embourbé à Notre-Dame-des-Landes, céder à la pression des zadistes de Sivens aurait été perçu comme un aveu de faiblesse. « Ma politique est de débloquer ce pays !» clamait le Premier ministre Manuel Valls devant un parterre d'agriculteurs en 2014. Comment Rémi Fraisse est devenu le symbole de la répression ? Malgré la destruction de la zone humide, 3000 personnes se sont retrouvées les 25 et 26 octobre pour le plus grand rassemblement contre le barrage, devenu enjeu national. La présence de gendarmes mobiles, malgré une mobilisation bon enfant, a fini par exaspérer une partie des manifestants et la tension est montée. Les 25 et 26 octobre 2014. La nuit tombée, les affrontements sont devenus plus violents. Et vers 1h45 du matin, des gendarmes ont décidé de lancer une grenade dite offensive. Le projectile a explosé dans le dos d'un jeune homme désarmé, qui levait les mains en signe d'apaisement. Quand les secours sont arrivés, il était déjà trop tard. Rémi Fraisse était mort sur le coup. Aujourd'hui, on le connaît surtout via une photo un peu floue, devenue iconique dans les milieux écolos. De profil, le regard de biais, un visage aux traits doux, des cheveux longs noués en dreadlocks. Rémi Fraisse avait 21 ans. Étudiant toulousain, botaniste pour l'association France Nature Environnement, il s'impliquait dans des actions de protection de la nature dans la région toulousaine, notamment sur la biodiversité urbaine. Quelqu'un de gentil et de doux, décrivaient ses proches, auxquels beaucoup de jeunes de l'époque ont pu s'identifier. Loin d'être un militant de longue date dans la lutte de Sivens et encore moins un occupant de la zone, il faisait partie de ces centaines de citoyens venu sur place ce week-end-là pour protester contre ce projet. Quelle condamnation pour les forces de l'ordre ! Le gendarme, auteur du lancer de la grenade interdite depuis 2014 dans l'arsenal policier, n'a jamais été condamné. Après une enquête compliquée, la justice a ordonné le non-lieu le 9 janvier 2018. une décision confirmée en appel 2 ans plus tard, en 2020, puis en cassation, en mars 2021. De son côté, la Cour administrative d'appel a considéré qu'il y avait bien eu une faute commise par les forces de l'ordre et condamné l'État pour le préjudice moral à verser quelques milliers d'euros à ses proches. 10 ans après, Rémi Fraisse est toujours parmi nous. Il est toujours dans notre pensée, toujours dans notre souci et dans notre cœur. Je voudrais maintenant vous dire quelques mots extraits d'un article de la Société Nouvelle paru à Bruxelles en 1889. J'ai bien dit 1889. Article écrit par un des premiers écologistes. Nous sommes révolutionnaires parce que nous voulons la justice et que partout nous voyons l'injustice régner autour de nous. C'est en sens inverse du travail que sont distribués les produits du travail. L'oisif a tous les droits, même celui d'affamer son semblable. Tandis que le travailleur n'a pas toujours le droit de mourir de faim en silence. On l'emprisonne quand il est coupable de grève. Des gens qui s'appellent prêtres essaient de faire croire au miracle pour que les intelligences leur soient asservies. Des gens appelés rois se disent issus d'un maître universel pour être maîtres à leur tour. Des gens, armés par eux, taillent sabres et fusillent à leur aise. Des personnes en robe noire, qui se disent la justice par excellence, condamnent le pauvre, absolvent le riche, vendent souvent les condamnations et les acquittements. Le sac d'écus, voilà le maître. Et celui qui le possède tient en son pouvoir la destinée des autres hommes. Tout cela nous paraît infâme et nous voulons le changer. Contre l'injustice, nous faisons appel à la révolution. Cet auteur, qui fait donc partie des premiers écologistes, s'appelait Élisée Reclus. Et nous le retrouverons souvent à Contre-Histoire.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier. Même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Citoyen de France. Et la justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière Saint-Just comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.